Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée des médias suivants. L'inconvénient et protégez-vous. Au programme, le consentement des surveillés. Et comment choisir une résidence privée pour aînés. Bonne écoute.
Le consentement des surveillés. Un éditorial d'Alain Roy paru au printemps 2023 dans le magazine L'Inconvénient. La surveillance est l'un de ces thèmes dont les ramifications se révèlent étonnamment nombreuses. On la croyait limitée à certains domaines, et voilà qu'on s'aperçoit, en fouillant la question, qu'elle touche quasiment tous les aspects de la vie. Selon le Robert, surveiller signifie observer avec une attention soutenue, de manière à exercer un contrôle, à éviter un danger. N'importe quel objet peut être visé par cette action, et on constate en effet que les êtres humains, en voulant étendre leur maîtrise sur le monde qui les entoure, surveillent aujourd'hui à peu près tout, qu'il ne reste pratiquement aucune part du réel qui ne soit soumise à cette scrutation attentive. Les gouvernements exercent ainsi leur surveillance dans le domaine du renseignement afin de protéger la sécurité nationale, de prévenir les menaces terroristes, les complots, les tentatives d'ingérence. Ils se surveillent mutuellement à l'aide des technologies d'espionnage et jusque dans l'espace au moyen de satellites. La police constitue un autre appareil de surveillance, chargé de maintenir la paix publique et de faire respecter les lois. Les prisons surveillent les criminels en les retirant de la société. Cachés dans leur tour panoptique, les gardiens suivent leurs faits et gestes à leur insu. Les détectives épient leurs suspects, qu'ils prennent en filature afin de débusquer des faits incriminants. Ces zones d'ombre des comportements humains que les films et les romans policiers explorent avec une curiosité insatiable. Les lieux publics, les transports en commun, les commerces se dotent de systèmes de vidéosurveillance pour dissuader les individus tentés de commettre des vols ou des méfaits, ou pour mieux sévir lorsqu'ils se produisent. Des inspecteurs et des fonctionnaires veillent au respect des réglementations dans les domaines de la construction, de la vente, de l'import-export, de l'environnement, lequel est également surveillé par les écologistes, qui examinent les niveaux de gaz carbonique, l'état des banquises, le trou dans la couche d'ozone et les populations de rainettes faux-grillons, lesquelles surveillent de petits insectes, guettés aussi par les oiseaux, que guettent leurs prédateurs, guettés par leurs propres prédateurs que guettent les chasseurs. Pendant que les épidémiologistes surveillent les virus, les politiciens surveillent les sondages et les agriculteurs surveillent le ciel, comme les contrôleurs aériens et les astrophysiciens qui surveillent aussi des étoiles mortes. Les météorologues surveillent la météo et les économistes l'économie, les taux d'intérêt, le taux de chômage, le PIB. Les boursicoteurs surveillent les index et les parieurs les statistiques. Les agences de crédit surveillent les dettes des individus et des États. Le fisc surveille les contribuables, qui surveille les participants aux émissions de télé-réalité, qui se laissent filmer par des caméras cachées en surveillant leur nombre d'amis sur leurs téléphones intelligents. Comme les adolescents, qui se surveillent sur TikTok et leurs aînés sur Facebook et Instagram, applications qui les surveillent en récoltant du big data pour le revendre à des annonceurs et à des compagnies d'assurance, lesquelles surveillent leurs risques et leurs profits. D'autres appareils et dispositifs nous espionnent. Les télévisions intelligentes nous filment dans nos salons. Siri, à qui nous demandons des listes de lecture sur Spotify, enregistre nos conversations. Les frigos Samsung permettent à nos voisins de scruter nos comptes Gmail. Certains installent des caméras dans leur maison pour épier le comportement des domestiques et celui de la nounou avec les enfants, que des surveillants surveillent aussi dans les cours d'école, comme parfois leurs propres parents, occupés à se surveiller pour ne pas être cocufiés. Les gens se surveillent également eux-mêmes. Ils surveillent leur poids et les mots qu'ils disent. Car leur surmoi les surveille, cette instance morale logée au cœur de la psyché et qui nous fait éprouver le sentiment de culpabilité. Dieu surveille aussi ses fidèles, qui ne peuvent échapper à son regard omniscient. Pendant ce temps-là, les couturiers surveillent les tendances, et moi, je surveille sur l'horloge les minutes qu'il me reste pour boucler cet édito avant que le numéro ne parte chez l'imprimeur. On le voit, les situations où les êtres humains se surveillent entre eux, surveillent le monde qui les entoure et se surveillent eux-mêmes sont presque infinies. Cette extension tous azimuts de la surveillance s'explique sans doute par le fait que l'être humain est un animal social, mais aussi par sa nature foncièrement inquiète. Comme le précise la définition du dictionnaire, « surveiller n'est pas observer ni regarder ». La surveillance suppose une volonté d'exercer un contrôle, d'éviter un danger. On surveille ce qui pourrait ne pas se passer comme on le voudrait. Lorsque les choses ne se passent pas trop mal ou qu'elles ne semblent pas nous menacer, la surveillance devient superflue ou déplacée, un peu comme chez ces personnes qui souffrent d'hypervigilance. À cause de traumatismes passés, elle cultive un état d'alerte excessif et permanent que ne justifie pas la réalité présente. Le thème de la surveillance renvoie de même à la manière d'être du paranoïaque qui scrute le réel et ses moindres signes afin de décoder le sens de la menace imaginaire qu'il sent peser sur lui. La surveillance n'est pas forcément gage de lucidité. Elle peut basculer aussi du côté de la folie. Dans ce monde de surveillance généralisée, la position que nous occupons est double, car nous en sommes à la fois les sujets et les objets. Nous sommes surveillants et surveillés. Par tempérament, il m'a toujours semblé que la première de ces deux positions était la plus agréable à tenir. Aussi est-ce l'une des surprises que m'ont réservées les contributions du présent dossier. Je m'attendais, je ne sais pourquoi, à lire quelques textes de résistance, des textes qui auraient exprimé le désir de combattre ce monde ultra-surveillé dans lequel nous vivons et qui ne peut que conduire, du moins dans mon esprit, à l'étiolement des individus brimés dans leur désir de liberté, soumis à des exigences toujours plus nombreuses et plus pénibles de rendre des comptes à des pouvoirs, à des bureaucraties, à leurs semblables. Or, les textes réunis dans ce numéro de l'inconvénient se proposent surtout, et plus lucidement, de cerner les raisons pour lesquelles nous consentons à cette surveillance omniprésente, voire la désirons. Deux motifs fondamentaux se dégagent des explorations pénétrantes de Jonathan Durand-Folco, Mathieu Bellil, Pierre-Marc Asselin et Hugo Gilbert Tremblay. Ce sont le besoin de sécurité et le désir d'être vu, lequel apparaît d'ailleurs aussi dans le récit intrigant et futuriste de Caroline Georges à travers le personnage de la plagiaire qui cherche sur les réseaux à usurper la place de la narratrice. Faut-il en conclure que le consentement à la surveillance est un trait de notre époque? Que nous dit ce consentement à propos de nous-mêmes? Serait-ce le symptôme d'un besoin de sécurité devenu obsessif? Que signifie le triomphe de l'exhibitionnisme sur la scropophobie, c'est-à-dire la peur d'être observé par l'autre? Vous écoutez « Le consentement des surveillés », un éditorial d'Alain Roy paru au printemps 2023 dans le magazine « L'Inconvénient ». Les deux motifs mis en lumière dans notre dossier thématique sont pourtant loin d'aller de soi. Si on considère l'histoire dans la durée, on peut affirmer que nos sociétés sont probablement parmi les plus sécuritaires qui aient jamais existé. Et si elles le sont, c'est sans doute en raison de ce besoin de sécurité que nous cherchons à satisfaire continuellement. Or, justement, ce besoin n'est-il pas comme une sorte de monstre qui se nourrit de lui-même? Les mesures sécuritaires nourrissent le désir d'une sécurité toujours plus étendue, mais sans que celui-ci puisse être jamais comblé, car on trouvera toujours de nouveaux motifs d'insécurité. Nous en sommes peut-être arrivés au point où l'insécurité est devenue à nos yeux quelque chose d'inadmissible, comme une injustice du réel, qu'il conviendrait de redresser par des mesures sans cesse plus urgentes et nécessaires. Dans ses fondements ultimes, la surveillance répond à la peur d'exister, c'est-à-dire de mourir, à cette peur primaire liée à la condition d'être vivant. On sait combien les médias carburent à cette émotion, qu'ils stimulent et entretiennent quotidiennement avec leurs nouvelles de guerre, d'attentats, d'accidents, de fusillades, de virus, de catastrophes climatiques. Les manchettes font de nous des assiégés perpétuels, d'où le désir naturel de surveiller ce monde inquiétant à l'aide de mécanismes qui nous sécurisent en même temps qu'ils nous insécurisent. Le paradoxe n'est qu'apparent. Il découle du caractère insatiable du besoin de sécurité. Des psychologues américains ont ainsi constaté l'inefficacité de ces traumavertissements que certains voudraient placarder partout. Ceux-ci provoqueraient, chez les personnes sensibles, l'état même d'angoisse ou d'inquiétude qu'ils avaient pour fonction de prévenir. L'extension de la surveillance répond à une demande de sécurité, mais la question alors se pose. Au nom de la sécurité, jusqu'où voudrons-nous être surveillés? Alors que le besoin de sécurité répond à la peur, le désir d'être vu s'enracine, on le devine, dans le narcissisme des individus. Mais celui-ci, comme l'a montré Christopher Lasch, serait moins un trait d'originalité qu'une marque de conformisme, le reflet d'une culture du narcissisme, où le culte du moi, paradoxalement, ne mène pas à une authentique individualité. Le narcisse présente une double face. Devant les autres, il fait étalage de l'amour qu'il se voue à lui-même, mais il n'agirait pas ainsi s'il s'aimait vraiment. Ces mises en scène visent à obtenir de l'autre cet amour qu'il ne trouve pas en lui, le regard fasciné qui réparerait ses blessures, mais qui ne les réparera pas. Sur les réseaux sociaux, on voit pulluler les profils où des gens en quête d'attention publient des égoportraits à la chaîne, souvent presque identiques, obéissant à une sorte de compulsion qui cache mal sa vacuité et dont l'unique fonction apparente semble être de réitérer l'existence du narcisse. Voici ma face, voici mon corps, les mêmes que ce matin ou la veille, j'existe encore. Où ils étalent, dans des scènes de joie feinte ou de bonheur appuyé, les merveilleux moments de leur vie palpitante. Voici l'assiette de linguine sauce rosée que j'ai commandée au restaurant. Avec la conviction étrange que cela présente un intérêt pour les autres, ou encore avec le secret désir d'instiller une jalousie qui confirmerait la valeur de leur existence formidable. Voici la piscine du superbe resort où je me prélasse sous le soleil pendant que vous grelottez de froid en attendant l'autobus. On cite souvent ce fameux « quart d'heure de célébrité » auquel chacun pourrait maintenant aspirer selon Warhol. Fort bien, mais que faire du reste de sa vie une fois ce risible quart d'heure passé? Selon un sondage récent, 86% des jeunes Américains rêveraient de devenir des influenceurs. Quelle sorte de société cela donnera-t-il lorsque tout ce beau monde se sera mutuellement influencé ou mutuellement ignoré, suivant le mécanisme de la rivalité mimétique? Le désir d'être vu naît du désir d'exister dans le regard de l'autre, c'est-à-dire, au fond, de la hantise de ne pas être. Narcisse ne s'en aperçoit pas, mais le jupon de ses inquiétudes ontologiques dépasse beaucoup. S'il veut que les autres l'admirent, s'il veut être surveillé, s'il veut se convaincre qu'il a réussi, c'est parce qu'il n'est pas sûr d'être si admirable, parce qu'il est terrorisé à l'idée de faire partie du camp des anonymes, autrement dit des losers. Il est ironique qu'autant de gens cherchent aujourd'hui à exister sur les réseaux sociaux, qui sont en fait le lieu de l'éphémère. Sur les fils d'actualité, la durée de vie des contenus se mesure en minutes, voire en secondes. Ce lieu de partage, lire d'autopromotion, est surtout un lieu d'effacement perpétuel. On va sur les réseaux pour exister et on y fait l'expérience de l'indifférenciation au sein d'une mère de narcisse tout aussi carencée que soi. Le besoin de sécurité et le désir d'être vu, desquels découlerait le consentement à la surveillance, se rejoignent dans ce trait commun. Ils sont la marque d'une humanité hantée par la crainte de ne pas être. Il existe pourtant un réel plaisir à inexister, à se retirer des vains tourbillons de la vie sociale, à renoncer aux fausses promesses, à la gloriole et aux illusions, à rentrer dans cette ère pour y vivre au rythme tranquille des saisons et des vendanges. Mais c'est peut-être le misanthrope en moi qui parle. N'écoute pas ce que je dis, chère humanité, et continue de participer à cette mascarade qui te divertit autant qu'elle te fait souffrir. C'était « Le consentement des surveillés », un éditorial d'Alain Roy paru au printemps 2023 dans le magazine « L'Inconvénient ».
Comment choisir la bonne résidence? Un texte de Marie-Ève Schaffer, paru dans l'édition de février de la revue Protégez-vous. Vous cherchez une RPA pour socialiser, obtenir des soins et vous sentir en sécurité. Nos conseils pour en trouver une à la hauteur de vos attentes. Le Québec est la province canadienne où les personnes âgées de 75 ans et plus optent en plus grand nombre pour la vie en résidence privée pour aînés, RPA. Selon la Société canadienne d'hypothèque et de logement, SCHL, 17 % d'entre elles avaient opté pour ce type d'habitation en 2021, alors qu'ailleurs au Canada, ce pourcentage se situait entre 5 et 10 %. Pour ces aînés, quitter un domicile où ils ont vécu pendant plusieurs années, voire des décennies, peut s'avérer une expérience pénible. C'est une étape phare parce qu'on réalise le temps qui passe, souligne la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier. Ils réfléchissent ainsi au vieillissement, à la perte éventuelle de leur autonomie et même à leur mort. Leur capacité d'adaptation est aussi mise à rude épreuve dans ce changement de maison. C'est important qu'ils verbalisent ce qui est émotionnellement difficile, insiste la spécialiste. Que vous envisagiez d'aller vivre dans une RPA ou que vous accompagniez un proche dans ce projet, gardez en tête que ce déménagement peut susciter un choc émotif, surtout s'il est effectué rapidement. La décision est prise? Vous avez intérêt à dresser d'abord un budget et à déterminer les besoins auxquels la RPA devra répondre. Après quoi, informez-vous sur les résidences et visitez-en quelques-unes. Selon les experts consultés, la RPA parfaite n'existe pas, mais il y a moyen d'en trouver une où vous ou votre proche pourrez couler des jours heureux. Budgéter. La première étape consiste à faire un budget. Notez qu'en 2021, la SCHL évaluait qu'au Québec, le loyer mensuel moyen d'un logement sans service s'élevait à 1 922 $, alors que celui d'un appartement avec service atteignait 3 653 $. Attention! Des aînés commettent l'erreur de penser que leurs dépenses diminueront en déménageant dans une RPA puisqu'ils feront moins de sorties. Il y a en effet un changement dans le mode de vie. Cependant, si on rajoute tous les services, selon les besoins de la personne, le prix a tendance à augmenter, signale Patricia Girard, conseillère principale chez Desjardins Gestion de patrimoine. Passez d'abord en revue les sources de revenus. Par exemple, les montants mensuels qui viennent d'un régime de retraite, d'un fonds enregistré de revenus de retraite, FER, ou d'un fonds de revenus viagers, FRV. À cela, il faut ajouter les allocations versées par les gouvernements du Québec et du Canada, telles que le régime des rentes du Québec, RRQ, la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenus garanti. Si l'aîné est propriétaire d'une maison et qu'il décide de la vendre avant de déménager dans une RPA, la liquidation de cet actif doit être considérée dans les calculs. Une fois que la maison est vendue, cela augmente les possibilités, dit Patricia Girard. En vivant dans une RPA, l'aîné a aussi droit à des crédits d'impôt du gouvernement du Québec. En voici deux incontournables. Crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés. Montant accordé aux personnes âgées de 70 ans et plus pour couvrir 36 % en 2022 des frais admissibles, services de buanderie, préparation de repas, entretien ménager, soins infirmiers et assistance personnelle. Il dépend des revenus de la personne si elle est autonome et si elle vit en couple ou non. Crédit d'impôt pour soutien aux aînés. Somme versée aux aînés de 70 ans et plus selon leurs revenus. En 2023, elle peut atteindre jusqu'à 2 000 $. Pour avoir l'heure juste et pour profiter de tous les programmes et crédits d'impôt, vous pouvez faire appel à votre institution financière. Si la situation est plutôt complexe, par exemple, s'il y a plusieurs actifs en jeu, retenez les services d'un planificateur financier. Je vous rappelle que vous écoutez présentement « Comment choisir la bonne résidence », un texte de Marie-Ève Schaffer, paru dans l'édition de février du magazine « Protégez-vous ». Évaluez vos besoins. Avant de rechercher une résidence, il faut déterminer les besoins à combler. Sachez que les RPA sont classées selon les services qu'elles donnent. Catégorie 1. Services offerts. Organisme à but non lucratif qui offre au moins 2 services de base, la préparation de repas, des mesures de sécurité, l'organisation d'activités de loisirs et une aide domestique. Catégorie 2. Entreprise privée qui offre au moins 2 services de base. Catégorie 3. Résidence qui offre au moins 1 service de base en plus des soins infirmiers ou d'un service d'assistance personnelle. Catégorie 4. Résidence qui offre des soins infirmiers, un service d'assistance personnelle et au moins 1 service de base. Les RPA, qui font partie des 2 premières catégories, accueillent des retraités en pleine possession de leurs moyens, alors que celles qui sont classées en 3 et 4 prennent soin de ceux qui ont besoin d'assistance au quotidien. Une même résidence peut recevoir des personnes de différents degrés d'autonomie. Par exemple, elle peut comprendre des logements où vivent des aînés qui obtiennent peu ou pas de services et une unité de soins qui héberge des gens semi-autonomes. Les locataires peuvent ainsi rester dans leur RPA, même si progressivement, ils ont besoin de davantage de services. C'est important de demander si la résidence est évolutive et si elle est capable de s'adapter aux besoins de l'aîné, note Nathalie Perrault, directrice générale du portail Résidence Québec. Si un locataire perd peu à peu ses capacités et qu'il se trouve dans une RPA d'une catégorie qui ne correspond pas à ses besoins, il doit quitter la résidence, ce qui entraîne un autre déménagement et une nouvelle vague d'émotions. Dès que la personne atteint 1,5 heure de soins par jour, elle doit aller dans un CHSLD ou une résidence intermédiaire. Les RPA ne sont pas équipés pour la garder, indique Marc Fortin, président-directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés, RQRA. Des professionnels peuvent vous épauler pour déterminer dans quelle catégorie de RPA vous devez orienter vos recherches. Le travailleur social. Si votre proche parent est en perte d'autonomie, demandez l'aide d'un travailleur social. Vous pouvez en trouver un en contactant le guichet d'accès en soutien à domicile de votre région ou un CLSC. Au cours d'une visite, le travailleur social évalue l'état de l'aîné à l'aide, notamment du système de mesure de l'autonomie fonctionnelle. Ce questionnaire passe en revue les capacités de la personne dans ses activités quotidiennes, l'habillement, l'alimentation, l'hygiène personnelle, etc., et ses habiletés à communiquer, la locution, la vue et l'ouïe. Il examine aussi ses facultés mentales, la compréhension, la mémoire, le jugement, etc., et ses aptitudes à accomplir des tâches domestiques, préparer des repas, entretenir la maison, se déplacer, etc. Le conseiller en hébergement. Que l'aîné soit en perte d'autonomie ou pas, un conseiller privé en hébergement peut aussi donner un coup de main. Son travail consiste à effectuer des recherches pour trouver une RPA qui correspond aux besoins, aux intérêts, aux préférences en matière de logement ainsi qu'aux moyens financiers de son client. Le but, c'est d'amener la personne dans un endroit où elle va rester le plus longtemps possible, explique Nathalie Perrault. Le conseiller en hébergement peut-il vous suggérer une résidence qui présente des lacunes? S'il y a un problème avec l'un de nos clients, on va confronter la RPA. S'il n'y a pas de changement, on arrête de la recommander, indique Louis Sirois, président de l'Association des conseillers en hébergement du Québec, ACHQ. Il ajoute que ses membres partagent entre eux des informations sur les résidences problématiques. Sachez que ce sont les RPA qui rémunèrent le conseiller en hébergement. Dans nos ententes, elles ne peuvent pas refiler la note à l'aîné et celui-ci a droit à tous les escomptes et promotions en vigueur, insiste Louis Sirois. Je vous rappelle que vous écoutez présentement « Comment choisir la bonne résidence », un texte de Marie-Ève Schaffer, publié dans l'édition du mois de février dans la revue « Protégez-vous ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à André Lebeau et Gilbert Lepage à la lecture, Nicolas Wartman à la recherche, à la présentation et au montage.